Bonsoir. Le Goethe-Institut, la BIFA, Bibliothèque franco-allemande, et Epistem, Centre de recherche de l'Université Bordeaux III, sont très heureux de vous présenter ce soir un débat entre Tristan Coigna et Jean Mondeau à l'occasion de la sortie de deux livres de Tristan Coigna, L'apologie du débat public, Réseau journalistique et pouvoir politique dans l'Allemagne des Lumières et Lumière et histoire, de tous les deux sortis aux presses universitaires de Bordeaux. Le deuxième livre est un ouvrage collectif et qui est sorti dans une collection dirigée par Jean Mondeau. Et je vous laisse faire le débat. Jean Mondeau, qui est donc professeur à l'Université Bordeaux III, et Tristan Coigna, maître de conférence. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, nous allons avoir le plaisir de débattre, mais en réalité, c'est surtout Tristan qui va assurer l'essentiel du spectacle, puisqu'il s'agit de deux ouvrages dont il a été le maître d'œuvre, son ouvrage sur l'apologie du débat public et son ouvrage sur l'histoire et les Lumières. Je ne vais pas présenter Tristan Coigna, on le connaît maintenant ici. On l'a dit, maître de conf à l'université, brillant sujet, brillant jeune collègue, et qui a travaillé sur cette notion de publicité. La notion de publicité en Allemagne était intéressante, mais je commencerai, si vous voulez, par une actualisation du thème. Récemment, un hebdomadaire qui paraît le jeudi ou le vendredi titrait « Le pouvoir intellectuel en France ». Et cette notion de pouvoir intellectuel, qui est encore aujourd'hui quelque chose qui est analysé, qui est sondé, auquel on fait appel de temps en temps. Bon, c'est quelquefois effectivement un petit peu ce qu'on appelle dans les journaux un marronnier, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop de quoi on parle, on reparle du pouvoir intellectuel. Et puis comme ça, on assemble un certain nombre d'intellectuels et on leur dit « vous êtes les intellectuels d'aujourd'hui et c'est vous qui influencez le débat public ». Mais au-delà de cet aspect simplement de cuisine journalistique, je peux dire, il y a une vérité, une réalité du pouvoir intellectuel, c'est-à-dire que dans nos sociétés sécularisées, le discours public, la sphère publique, on aura l'occasion d'en parler, la sphère publique est, je ne dirais pas contrôlée, mais animée, non plus comme ça l'était autrefois du temps où les églises dominaient la sphère publique, non plus donc par des clercs de l'Église, mais par des intellectuels sécularisés, des intellectuels vivant dans le siècle, c'est-à-dire des romanciers, mais aussi des philosophes, des essayistes, enfin tout ce qui constitue ce qu'on appelle justement les intellectuels. Intellectuel, c'est un mot qui n'existe pas encore au XVIIIe siècle, c'est une invention, on le sait, de l'affaire Dreyfus, à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, mais on a au XVIIIe siècle, la constitution, justement, de cette catégorie de personnes, c'est-à-dire des écrivains, des journalistes, déjà, des publicistes, disait-on, qui, sortis non plus dans l'Église, hors de l'Église, expriment une opinion, et expriment une opinion qui, de plus en plus, concerne les affaires de l'État. C'est-à-dire que il ne s'agit plus simplement d'entendre des personnes compétentes sur un domaine économique ou bien sur spécialisées sur l'architecture ou bien l'urbanisme, des choses comme ça, mais c'est simplement des personnes qui considèrent qu'elles ont suffisamment de bon sens, suffisamment d'intelligence pour pouvoir intervenir dans le débat public. Et c'est la nouveauté du XVIIIe siècle, sécularisation des élites, donc sécularisation de ceux qui parlent, de ceux qui ont la capacité de parler, de s'exprimer, et qui mettent cette capacité de s'exprimer au service d'une opinion, au service aussi, et de plus en plus, ce sera un engagement social, au service de ceux qui ne peuvent pas parler. Donc, ce pouvoir intellectuel, il se constitue, on peut dire, au XVIIIe siècle, il se constitue en France, avec quelques grands exemples, comme Voltaire, mais aussi en Angleterre, bien entendu, peut-être l'Angleterre ayant quelque avance sur le continent du fait de ses lois de liberté de la presse plus généreuses, mais enfin, il se constitue en Angleterre, en France, et aussi en Allemagne, et c'est ce dont Tristan Coigna va nous parler dans un premier temps, puisque sa recherche à porter justement sur des réseaux qui sont constitutifs de ce pouvoir intellectuel. Alors, je vous donne la parole maintenant. Quels sont ces personnages, ou quels sont ces individus, ou quels sont ces hommes qui ont, en quelque sorte, animé en Allemagne le débat public ?
D'accord. Mais avant de vous répondre, je voudrais vous remercier d'assurer la modération, remercier aussi la bibliothèque franco-allemande et l'Institut Goethe, ainsi que la librairie Mola, pour me donner l'occasion de présenter ces deux ouvrages. Alors, vous avez dit qui sont ces hommes. Effectivement, ça peut sembler un peu étrange quand on ouvre le livre, l'apologie du débat public. On tombe en fait dans un premier temps sur des noms d'inconnus, sur des personnalités qu'on pourrait considérer comme secondaires. Et c'est vrai, je suis parti d'une étude de cas, hein, celle d'un réseau de journalistes autour de Peter Adolf Winkop. Alors, qui est ce Winkop ? C'est un jeune homme au caractère bien affirmé. Il est de ce qu'on pourrait considérer être la génération 1759. 1759, c'est la date de naissance de Schiller, par exemple. Donc, c'est une génération clé, je dirais, en Allemagne au XVIIIe siècle. Elle avait 20 ans au tournant des années 70 et 80. Et elle va jouer un rôle important dans l'évolution de la presse et dans la politisation de cette presse. Alors, ce Winkop, ce petit bonhomme, décide, et ça montre son caractère bien affirmé, décide, contre l'avis de ses parents, d'entrer au monastère à la fin des années 70. Et il décide d'autre part, parallèlement à sa vie de moine, de faire des études de philosophie, alors que ses parents le destinaient à des études de droit. D'accord ? Donc, effectivement, jeune homme indépendant, un jeune homme anti-sarkozyste, pour ainsi dire. Et malheureusement, pour lui, et ça va être très important pour sa carrière future, il commence à douter en tant que moine. Et il se tourne vers un philosophe très célèbre, Moïse Mendelssohn. Donc c'est un philosophe juif berlinois qui est un peu, si vous voulez, le Michel Onfray de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc une personnalité importante. Un grand penseur, mais aussi quelqu'un qui se veut un pédagogue. Et ce Mendelssohn s'intéresse aux états d'âme de ce pauvre moine bénédictin, et il le prend un peu sous ses ailes. Et finalement, ils entrent en correspondance. Et Winkop réagit de manière très violente à cet échange avec le philosophe. Il remet en question un certain nombre de choses, en particulier les dogmes catholiques, et il quitte de manière spectaculaire le monastère où il était. Donc Winkop aussi est non seulement quelqu'un au caractère bien affirmé, mais aussi un révolté du XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, donc à partir de là, à partir du moment où il rompt avec sa vie de moine, c'est qu'il va devenir un écrivain polygraphe qui va faire un peu toutes les activités possibles et imaginables. Il va traduire, il va écrire des romans, des textes d'actualité, et il se décide enfin à devenir journaliste. Winkop sera un journaliste qu'on pourrait qualifier d'efficace. Pourquoi est-ce qu'il est un journaliste efficace du XVIIIe siècle ? C'est parce qu'il se cherche des soutiens influents, en particulier parmi les hommes des Lumières berlinois. Il tisse des réseaux, on y reviendra certainement. Comme de nos jours, les journaux du XVIIIe siècle fonctionnent sur la base de correspondants, sur la base de réseaux intellectuels. Et Winkop est très efficace dans l'élaboration, dans le tissage de réseaux à travers tout l'Empire, le Saint-Empire romain germanique. Et donc finalement, il va publier des revues, en particulier une revue qui s'appelle Le Spectateur allemand à partir de 1785, et une revue qui va faire, je dirais, sensation et scandale, parce que Winkop va y publier des articles qui vont être très rapidement dénoncés par les instances de censure, et Le Spectateur allemand va être rapidement interdit. Alors, j'ai tenu à donner ces précisions biographiques à propos de Winkop, parce que, justement, je pense que les personnages mineurs dans l'histoire ont leur importance Et c'est aussi une analyse que je ne suis pas le seul à partager. Hein. Un historien américain, Robert Darnton, a dit de manière un peu provocatrice dans les années 70 que les grandes personnalités, les grandes figures de l'histoire, Voltaire, Goethe, Schiller, pour ce qui est de l'Allemagne, ne sont finalement pas très importantes pour comprendre la vie intellectuelle, pour comprendre comment fonctionne la production de livres et de périodiques au XVIIIe siècle. Et il a lui-même, dans ses recherches, il a opté pour l'étude de personnages secondaires, parce que ces personnages secondaires sont obligés de faire du commerce de livres tout à fait concret. Ils sont obligés de négocier avec les éditeurs, ils sont obligés de se battre pour avoir le droit de dire ce qu'ils pensent. Et cette situation de précarité, je dirais, de précarité intellectuelle, fait qu'ils portent en eux, ils véhiculent le discours politique du XVIIIe siècle. Et comme ils sont beaucoup plus exposés que les grandes personnalités, on peut, à partir des études de cas qu'on peut faire à partir d'eux, on peut voir quel rapport les intellectuels, les journalistes, entretiennent avec les pouvoirs à la fin du XVIIIe siècle. C'est aussi, et Winkop est un bon exemple pour ça, c'est aussi une bonne occasion de faire des études de réseau intellectuel. Alors je suis allé voir dans les archives, dans les bibliothèques, pour comprendre comment fonctionnent les réseaux, qui est-ce qui participe aux journaux qu'édite Winkop. Et il se révèle que le discours, les articles les plus radicaux dans les journaux de Winkop sont dus à des correspondants, à des journalistes qu'il a contactés, auquel il a proposé une collaboration. Donc ce réseau autour de Winkop est important non pas parce qu'ils sont des personnages secondaires, mais parce qu'ils montrent que la petite histoire, l'histoire individuelle, peut croiser la grande histoire. Et dans le cas de Winkop, on a différentes étapes dans son existence et dans son parcours qui montrent finalement que un individu pris dans un réseau peut jouer un rôle important dans l'histoire et peut révéler un certain nombre de choses à propos de l'évolution des idées, notamment au XVIIIe siècle. Alors, on a déjà parlé de Mendelssohn, effectivement. Il contacte quand même l'un des grands philosophes de la fin du XVIIIe siècle. Et les lettres que Mendelssohn a adressées à Winkop sont encore lues par des philosophes de nos jours, parce que Mendelssohn, en donnant des conseils à Winkop, précise sa pensée philosophique. Donc, de ce point de vue-là, les échanges entre Mendelssohn et Winkop ne sont pas secondaires, parce qu'ils contribuent à l'histoire des idées. D'autre part, je l'ai dit déjà, les journaux de Winkop ont été censurés, ont même été interdits. Et on voit que les écrits de ce publiciste ont suscité la réaction des autorités, ont été perçus comme une sorte de défi. Et on parlera ensuite de l'espace public au XVIIIe siècle et on verra que Winkop, entre autres, est finalement le fer de lance de l'émergence d'une véritable opinion publique. Ce qui est intéressant dans ces archives de censure, ces dossiers qui sont constitués à partir du cas Winkop, c'est que on voit finalement que, à travers un événement, c'est-à-dire l'interdiction et l'arrestation, l'interdiction du journal Le Spectateur allemand et l'arrestation de Winkop, finalement, les autorités politiques révèlent une certaine fragilité. On a parlé de cette histoire, de cette interdiction du Spectateur allemand et de cette arrestation dans les ambassades. Par exemple, l'ambassadeur de France a fait des notes sur cet événement qu'on pourrait juger accidentel dans l'histoire, sur cette affaire Winkop. Et l'empereur du Saint-Empire romain germanique a lui-même dépêché des émissaires nécessaire, hein, justement, pour en savoir plus sur les véritables circonstances et sur les sous-entendus, hein, diplomatiques de cette affaire Vinkoop.
Peut-être pourrait-on dire quelque chose de cette arrestation un peu mouvementée de Vinkoop, parce que c'était déjà arrivé, mais ce n'était pas fréquent à l'époque, cet acharnement, ou plutôt ce guet-apens policier qui lui a été tendu. Peut-être quelques mots là-dessus.
Oui, bien sûr, ça ressemble un peu à un roman d'espionnage, hein, au XVIIIe siècle. Hein. Vinkoop, hein, publiait son Spectateur allemand depuis Zurich. Donc, il s'était, si vous voulez, expatrié, hein, du Saint-Empire romain germanique pour pouvoir, hein, publier sa revue. Et les autorités de Mayence, parce que ce sont les autorités, hein, de l'électorat de Mayence qui voulaient absolument interdire son périodique, ont monté finalement des services secrets, oui, un véritable guet-apens, ouais, pour pouvoir attirer, hein, Vinkoop dans des territoires, hein, où il pourrait l'arrêter, hein, où il pourrait l'emprisonner. Et donc c'est à partir de ça, parce que justement les autorités de Mayence ont monté ce guet-apens, que les chancelleries, hein, les ambassades, les représentants de l'empereur, hein, se sont intéressés de près à ce personnage et à son réseau.
C'est un véritable kidnapping, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des officiers, des agents plutôt, qui sont allés l'arrêter, le conduire dans une calèche, puis l'enlever en réalité pour le mettre en prison après. C'est-à-dire que c'était quand même des procédures qui étaient un peu rares dans le Saint-Empire, même si il y avait déjà Schubart, qui était l'auteur immortel de la truite, qui se trouvait dans le Hohenasperg à ce moment-là, c'est-à-dire dans la Bastille du Württemberg. Mais quand même, cette procédure, et les journalistes et les collègues de Vinkoop se sont fait l'écho de cette capture quand même inouïe. C'est à la fois, ça montre avec quelle désinvolture les autorités considéraient les publicistes et les journalistes, mais ça montre aussi que dans ces années 80 du XVIIIe siècle, c'était quelque chose qui faisait scandale. Hein, et ça montre à la fois, je dirais, la précarité, la situation des publicistes dont vous parliez, la précarité aussi des autorités, c'est-à-dire la fragilité de ces autorités qui ne supportent pas la moindre critique, parce que c'est une critique qui touchait vraiment Mayence. Et donc, c'est une affaire qui, de ce point de vue-là, est tout à fait exemplaire.
Oui, donc je crois qu'à travers, hein, ce réseau de publicistes, hein, on peut vraiment élargir la perspective, hein, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est-à-dire que je suis allé regarder les choses, hein, par le petit bout de la lorgnette, si vous voulez, mais cette étude, hein, de cas permet finalement une plongée, hein, dans l'univers de la presse allemande, mais aussi de la presse européenne au XVIIIe siècle. Alors, ce qui est intéressant, hein, dans cette presse au XVIIIe siècle, hein, c'est qu'elle est très riche, d'accord ? C'est une chose qui n'est pas toujours, hein, reconnu, hein, et qui n'est pas toujours, hein, souligné, mais la presse, hein, les quotidiens, les périodiques, hein, ça commence très tôt, hein, ça commence dès le XVIIe siècle, hein, véritablement, de manière industrielle, et ça se développe de manière tout à fait spectaculaire, hein, au XVIIIe siècle. Alors, évidemment, les pays, hein, pionniers, en l'occurrence, ce sont la France et l'Angleterre. En revanche, hein, on a souvent tendance à oublier que le Saint-Empire romain germanique, hein, les territoires allemands, ont véritablement une particularité et ont une spécificité, hein, pour ce qui est de la presse, hein, du paysage de la presse. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité du Saint-Empire romain germanique ? C'est qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a pas véritablement de capitale. Hein. Francfort est une sorte de capitale secondaire qui n'est pas vraiment reconnue. Et Berlin joue finalement le rôle d'une grande ville de province à cette époque-là, même si à la fin du XVIIIe siècle, ça va changer. Donc il y a énormément de petits centres de la presse, d'accord. Donc Francfort, bien sûr, hein, Leipzig, mais aussi les grandes villes, voilà, les villes du Nord, hein, Hambourg par exemple, mais aussi les villes du Sud, hein, à commencer par Munich ou par Nuremberg. Donc la particularité, c'est que contrairement à l'Angleterre, où vous avez véritablement un centre, où vous avez Londres qui irrigue de ses périodiques tout le territoire, vous allez avoir des journaux qui vont émerger dans des lieux différents, dans des aires culturelles, si on veut, différentes. Et donc, il va y avoir des orientations tout à fait différentes selon que la revue est publiée à Munich, à Francfort ou à Hambourg. Ce qui est peut-être aussi caractéristique de la presse allemande par rapport aux autres, c'est qu'elle est très diversifiée du point de vue thématique. Alors évidemment, vous retrouvez dans le Saint-Empire romain germanique donc des revues de théologie, c'est les revues traditionnelles, des revenus littéraires, bien sûr, mais très rapidement, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on a des revues politiques, mais aussi des revues thématiques qui ressemblent un peu à ce que nous avons de nos jours, les revues pour femmes, les revues consacrées à l'éducation des enfants, d'accord, avec des conseils, comment éduquer son enfant, des revues plus techniques consacrées à l'évolution, au progrès scientifique ou au progrès technologique. Donc on retrouve dès le XVIIIe siècle une certaine modernité éditoriale qui fait écho à ce que nous avons de nos jours. Alors cette presse qui est riche pour cette époque-là culmine finalement pour ce qui est de l'espace germanophone dans les années 1770-1780. Donc ce sont les décennies auxquelles je me suis plus particulièrement intéressé. Et c'est aussi un moment important parce que ces journaux, ces périodiques commencent à échapper à la censure. Il y a une sorte de flot de publications et les instances de censure, qui ne sont pas très nombreuses, pas très bien organisées, commencent à avoir du mal à contrôler ces flux parce que maintenant, un libraire-éditeur dans la campagne bavaroise peut très bien décider de publier une revue et cette revue échappera selon les circonstances, pourra échapper aux instances de censure.
S'ajoute le fait qu'il y a des rivalités économiques, parce que des éditeurs, des libraires, tout ça, ce sont des forces économiques dans un pays, ou dans un land, ou dans une région, ou dans une ville, et que la censure royale ou princière ne veut pas risquer de perdre un éditeur qui assure quand même des revenus, des emplois, etc. Donc cette rivalité économique entre les États joue un rôle aussi. Ces différences de législation entre les États jouent un rôle, si bien que ce qui est interdit quelque part peut l'être ailleurs. Donc il y a tout un jeu dans le Saint-Empire qui favorise finalement l'éclosion d'un grand nombre de revues et de journaux, parce qu'il y a ce jeu avec les frontières, les limites, etc., et les autonomies plus ou moins grandes des États. Alors quelquefois, les États se coalisent où il y a une espèce de coalition policière, je dirais, pour interdire un journaliste ou bien une revue, mais c'est jamais l'ensemble, ou c'est rarement l'ensemble du Saint-Empire romain germanique, et par conséquent, donc, il y a une espèce de facilité à publier dans cet empire romain germanique avant 89, avant 90. Et donc, ce qui fait que le climat ou le paysage intellectuel allemand est, quoique ne bénéficiant pas de la concentration du capital comme la France et comme l'Angleterre, le paysage intellectuel allemand est quand même très varié, très ouvert et avec des débats très riches. Et aussi, on se rend compte que, avec des débats bien entendu aussi biaisés, c'est-à-dire que ce qui fait discussion attire les journalistes. Alors ça peut être des discussions littéraires ou esthétiques. On peut être étonné, par exemple, de voir à quel point on s'est On a débattu, avec quel intérêt les élites ont débattu sur le problème de savoir si le théâtre, la tragédie, devait être selon le modèle aristotélicien racinien, ou bien plutôt selon un modèle empruntant plutôt à Diderot, plutôt à Shakespeare, etc. On peut s'étonner que des sujets de technique littéraire aient concentré à ce point la discussion. En fait, c'est parce que quand la discussion ne peut pas se développer sur un certain point, tout ce qui fait débat attire, en quelque sorte. Hein. C'est souvent des substituts de débat politique, hein, déjà dans cet empire, dans ce Saint-Empire germanique. Et peu à peu, on s'aperçoit que la littérature déborde sur le politique. Hein. Et ces revues littéraires, finalement, traitent aussi, au début à la marge, et puis après pleinement, de thèmes qui sont politiques ou qui mettent en jeu le politique. Et c'est ce qui fait la richesse et l'intérêt de cette littérature, entre guillemets. Oui,
oui, l'irruption du politique que vous évoquez, hein, est bien sûr très importante, et aussi très importante, hein, dans mon livre. Et il a fallu finalement trouver un cadre théorique, hein, pour penser, hein, ce potentiel critique, ce potentiel politique qui s'est développé, hein, donc en particulier dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Donc là, j'ai eu recours, hein, au travail, hein, d'un philosophe, hein, et sociologue allemand qui s'appelle Jürgen Habermas, et dont nous avons déjà parlé dans les salons, hein, de la librairie Mola en novembre dernier. Alors, qu'est-ce qui est intéressant chez Habermas, selon moi, c'est qu'il a essayé de faire une archéologie de l'espace public. C'est-à-dire, il a essayé de se demander comment se constituait progressivement l'espace public, c'est-à-dire, hein, ce champ où sont mis en rapport, hein, les journalistes, hein, et l'opinion publique de manière globale, et les instances du pouvoir. Donc, que nous dit Habermas ? Habermas nous dit que jusqu'au XVIIIe siècle, hein, il y avait une sorte de séparation, hein, entre la sphère privée, d'accord, où fonctionnait, hein, finalement la bourgeoisie, et la sphère publique qui était le monopole, hein, des structures étatiques et notamment des structures monarchiques. D'accord ? Donc ça, c'est le statu quo, hein, selon Habermas, jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et à partir de là, on a une sorte de mise en mouvement, de dynamique, parce que avec le développement du commerce, avec la montée en puissance, hein, de la bourgeoisie, qui commence à s'éduquer, qui commence à développer un discours rationnel, eh bien, les questions qui étaient avant privées deviennent d'intérêt public. D'accord ? Donc on a plus ce clivage, plus cette séparation, mais on a véritablement, hein, une porosité, hein, entre sphère privée et sphère publique. Et ces membres, hein, des classes bourgeoises vont commencer à juger, à donner leur avis, hein, sur les décisions prises par les autorités. D'accord ? Et Habermas, hein, appelle ça la zone critique. D'accord ? Il va se constituer une zone critique où il va y avoir potentiellement un conflit entre les représentants de l'opinion publique et le pouvoir. D'accord ? Et c'est justement à cette zone critique, hein, que je me suis intéressé dans mon ouvrage. Alors on a pu faire beaucoup de reproches, hein, à Habermas, hein, son livre date des années 60, et depuis on a fait bien sûr beaucoup d'études, on a aussi changé, hein, d'orientation philosophique, et lui-même, hein, a reconnu que c'était un peu schématique ce qu'il avait imaginé, hein, dans les années 60, et il a fait travailler, hein, des étudiants sur des sujets proches, hein, et lui-même a réalisé, hein, qu'il fallait nuancer un peu le propos, hein. Par exemple, un sociologue, hein, qui a été finalement l'élève et le disciple de Habermas a bien montré, hein, qu'il ne fallait pas idéaliser, hein, ces rapports entre la bourgeoisie et les autorités, hein, qu'il y avait pas seulement un conflit, hein, qu'il n'y avait pas seulement une opposition, mais qu'il pouvait aussi y avoir des connivences, hein, et que l'ensemble, hein, était beaucoup plus complexe que ce qu'avait imaginé, ce qu'avait pensé Habermas dans les années 60. En revanche, hein, je pense que on peut partir de Habermas. Bien sûr, il faut rendre les choses un peu plus complexes, rendre le cadre théorique un peu plus complexe, mais le fondement et cette idée, hein, de dynamique, de dialectique de l'espace public est à mon avis intéressante pour penser, hein, les rapports entre les journalistes et le pouvoir. Et donc au milieu des années 1780, dans Le Spectateur allemand, dans cette revue de Winkop, est à l'œuvre, je dirais, cette dialectique de l'espace public. Winkop va intégrer des articles dans sa revue qui constituent un discours critique et directement critique à propos des décisions prises par certains souverains, notamment donc l'électeur de Mayence, par exemple, mais d'autres aussi, notamment pour ce qui est de la Bavière. Les collaborateurs de Winkop sont très critiques à l'égard des autorités bavaroises. Et la seule réaction, finalement, de ces autorités, c'est d'essayer de chasser ces publicistes, d'essayer de les arrêter justement pour les faire taire. Donc ici, on voit très bien quel est le pouvoir des journalistes dès la fin du XVIIIe siècle. Ils mettent en évidence les faiblesses, ils mettent en évidence les fragilités et les contradictions du pouvoir en place, et ils suscitent finalement une réaction qui, bien sûr, fait en sorte que ces journalistes doivent se taire dans l'immédiat, mais qui montre aussi que ces monarques, ces structures monarchiques sont complètement dépassées, sont complètement obsolètes et ne sont même plus comprises par les sujets de ces souverains.
Oui, c'est-à-dire il y a la constitution d'un débat et puis même, on peut dire, d'une espèce de raison collective. C'est ça la découverte de cette fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on ne sait pas trop comment désigner le terme d'opinion publique au départ. On hésite, on dit la raison publique, la raison tous, la raison générale. Parce que, en fait, la vraie idée, c'est que du débat, comme d'ailleurs on l'a expérimenté pour les vérités scientifiques, c'est-à-dire que c'est du débat entre les savants que naît la vérité scientifique. Et on reproduit le même modèle pour la vérité politique, et on se dit du débat entre des personnes de bon sens, finalement, et y compris avec le pouvoir, et on veut entraîner le pouvoir dans ce débat, et sortira une espèce de raison collective, l'opinion publique. Et c'est dans les années 80 que ce terme commence à être utilisé. C'est-à-dire non plus l'opinion au sens péjoratif du terme que ça avait autrefois, quand c'était l'opinion commune, l'opinion publique, ça voulait dire une opinion qui a besoin d'être aménagée, d'être améliorée. Désormais, c'est l'opinion publique, c'est une instance spécifique, c'est l'esprit public, l'opinion publique qui décide, qui peut décider, qui peut déterminer en tous les cas ce qu'il est bon de décider pour une collectivité. Et ça, c'est un grand progrès, et même, on peut dire, c'est le message même des Lumières, en quelque sorte. C'est le message de Kant aussi. Et c'est dans cette constitution de la raison collective que devrait, ou c'est vers la constitution de ce débat collectif, que devrait déboucher le débat alimenté par tous ces journalistes et tous ces publicistes qui, d'un seul coup aussi, découvrent leur pouvoir, en quelque sorte. Il y a une découverte, en même temps, de leur pouvoir à la réaction, aux réactions virulentes des autorités. Ils voient bien que essayer de dire la vérité, essayer de dire comment est la réalité, eh bien, c'est difficile, et donc ça veut dire que leur parole a du poids. Et donc ça, c'est aussi la découverte qu'ils font ensemble et qu'ils font quelquefois douloureusement, bien sûr.
Au moment où ils prennent conscience de leur pouvoir, on constate à la lecture de ces revues qu'il faut remettre en question un certain nombre d'idées reçues à propos des Lumières en général et à propos des Lumières allemandes en particulier. Alors on dit toujours que les Lumières allemandes, qu'on appelle Aufklärung, ont un caractère conciliant, que ces Lumières ont essayé, sont toujours ancrées dans la religion et ont toujours essayé de privilégier la réforme consensuelle plutôt que des ruptures. Et à la lecture finalement de ces journaux, on se dresse finalement un portrait tout à fait différent. Il y a véritablement un discours très critique, résolument anti-monarchique, anti-ecclésial, donc dirigé contre les églises. Et on l'a déjà évoqué, même le discours politique n'est pas absent de ces publications. Donc le discours journalistique, mais aussi le discours politique, change donc dans ces années 1770-1780, se radicalise d'une certaine manière. Et dans un premier temps, évidemment, cette radicalisation va être stoppée net par les arrestations, par la censure, etc. Mais ça montre déjà des éléments de modernité politique qui vont véritablement se révéler au XIXe siècle.
Peut-être peut-on dire là quelques mots sur la fameuse Spätaufklärung.
Oui, tout à fait. Alors, on a utilisé souvent le terme de Spätaufklärung, qui signifie, donc, si on le traduit mot à mot, lumière tardive, comme si on allait éteindre les lumières à la fin du XVIIIe siècle et qu'on allait passer à autre chose. Donc, c'est un peu dommage. Alors, ce terme montre que très longtemps, on s'est très peu intéressé à ces années 1770-1780. Alors, on a beaucoup parlé d'un mouvement littéraire qui est le Sturm und Drang. D'accord, on a toujours dit qu'il s'opposait résolument aux Lumières et que donc les Lumières étaient quasiment enterrées à la fin du XVIIIe siècle. Et quand on lit ces revues, on a plutôt l'impression qu'effectivement, il y a des redites. Effectivement, tous les articles ne sont pas intéressants. Il y a aussi une forme de cuisine journalistique dès le XVIIIe siècle. Il ne faut pas idéaliser les choses. Il y a des attaques personnelles, des choses ignobles. Mais on ne peut pas dire que ce soit que les Lumières soient essoufflées à la fin du XVIIIe siècle. Et il y a des éléments de continuité qui mènent de ces années 80 jusqu'aux révolutions de 1848.
Au fort Merz, oui.
Voilà. Et donc, le discours politique, le discours journalistique est orienté vers une modernité politique incontestable.
La preuve que Spätaufklärung ne convient pas, c'est qu'en 1784, la fameuse question de Kant, c'est pas qu'est-ce que dit Spätaufklärung, mais qu'est-ce que dit Aufklärung, qu'est-ce que les Lumières ? Pas qu'est-ce que les Lumières tardives, mais qu'est-ce que les Lumières ? Parce que les Lumières sont encore à l'ordre du jour. Elles sont plus que jamais. Et avec une inquiétude même que Kant essaie, avec son tempérament conciliateur, justement, essaie de calmer, de raisonner, si je puis dire, avec une inquiétude sur l'orientation, justement, sur la radicalisation des Lumières. Mais la radicalisation des Lumières touche l'Allemagne, comme les autres pays d'Europe, l'Angleterre, la France aussi. Donc on est en plein débat européen, et l'Allemagne n'est pas en retard de ce point de vue-là, si je puis dire. Elle débat, elle aussi, de savoir où vont ces Lumières, jusqu'où peut-on aller, jusqu'où peut-on débattre, que peut-on remettre en question, jusqu'où peut-on remettre en question. Et la remise en question est sérieuse et peut-être peut aller très loin. Ce parcours d'un moine défroqué, il y aura beaucoup défroqué chez les publicistes d'ailleurs, et il y aura aussi beaucoup défroqué dans la Révolution française. Il y aura même des anciens moines allemands, comme par exemple celui que notre collègue Alain Ruiz aurait pu présenter ici, qui s'appelle Eulogius Schneider, qui a été un jacobin strasbourgeois, mais acharné, faisant fonctionner la guillotine très intensément. Eh bien, il était lui-même un moine défroqué, venant du Saint-Empire. Donc, je veux dire, il y a eu des passages entre le radicalisme des Lumières allemandes et la Révolution française. Donc, vraiment, Spätaufklärung ne donne pas, ne rend pas, si vous voulez, la réalité de ce mouvement intellectuel, philosophique, qui était dans les années 80, plutôt dans un moment d'exacerbation et d'exaspération, plutôt que dans un moment de relatif déclin.
Alors, pour compléter le tableau, il faut évoquer ce que j'ai appelé un peu le nœud du problème, c'est le titre de mon dernier chapitre, c'est que Winkop, donc, après son arrestation, entre finalement en négociation avec les autorités de Mayence, et quelques années plus tard, après sa sortie de la prison, après quelques années qu'il faut appeler des années de galère, il entre au service de l'État de Mayence, de l'électorat de Mayence, dans les années 1790. Alors, on peut se demander s'il y a de la part de Winkop de l'opportunisme, un pur opportunisme. Bien sûr que ça a joué son rôle, bien sûr que sa situation de journaliste arrêté sans véritable perspective l'obligeait à un certain nombre de concessions. Mais il faut quand même expliquer pourquoi est-ce qu'il est allé jusqu'à se mettre au service des autorités de Mayence. Alors, Je dirais que, à cet égard, il faut rendre un peu plus complexe le modèle théorique que j'ai utilisé et que nous avons présenté jusqu'à présent. Donc évidemment, il y a eu cette situation de conflit, cette situation de contestation des pouvoirs, mais il faut savoir aussi qu'au XVIIIe siècle, cette contestation n'est pas toujours en contradiction avec l'idée même de coopération avec les autorités. Et si l'on prend en compte les publications plus tardives à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, les publications de Winkop, évidemment, il change son fusil d'épaule, c'est incontestable, mais vous avez un certain nombre de principes sur lesquels il va rester tout à fait fidèle à lui-même. En particulier, il va toujours insister sur le fait qu'une constitution est pour lui un texte fondamental et que tout État doit fonctionner grâce à une constitution. Deuxième aspect auquel il va être fidèle, c'est l'idée de contrôle de l'exécutif, le contrôle du pouvoir du monarque. Alors, donc, en apparence, il va se mettre complètement au service des autorités de Mayence. Et en 1806, au moment où le Saint-Empire romain germanique disparaît au cours de l'épopée napoléonienne, Napoléon fait en sorte que le Saint-Empire romain germanique disparaît, Winkop devient le rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle « La Confédération rhénane » et qui soutient explicitement la mise en place de la Confédération du Rhin par Napoléon, qui est pour Napoléon une manière de contrôler, de garder le contrôle sur les territoires allemands après la fin du Saint-Empire. Alors, donc, Winkop collaborateur, en apparence, on peut soutenir cette position. Simplement, si on regarde en détail les articles de cette revue, la Confédération du Rhin, on s'aperçoit très vite que Winkop lui-même, que les collaborateurs de Winkop insistent sur le fait que Napoléon doit accorder une constitution à ces États de la Confédération du Rhin, c'est-à-dire que les rapports entre la France et ces États ne doivent pas être fondés sur l'arbitraire, mais ils doivent être fondés sur des questions juridiques. Et ce qu'il y a derrière, c'est que Winkop espère en fait faire de cette Allemagne occupée par les Français, un nouvel État qui serait un État constitutionnel et qui serait susceptible de se déterminer lui-même. Donc c'est l'idée de Winkop et l'idée d'un homme politique allemand qui s'appelle Dalberg. Ils se sont évidemment complètement trompés. Napoléon était beaucoup trop puissant pour accorder une constitution véritable à ces États allemands. Et d'ailleurs, il a très vite, au début, il a fait des promesses, mais par la suite, il a très vite, dès 1807, il a très vite abandonné ce discours. Alors, effectivement, Winkop s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Il avait perdu, évidemment, face à Napoléon. Mais on voit que, malgré tout, malgré le fait qu'il s'est mis au service des autorités et de Napoléon, il a toujours essayé de conserver, de maintenir un certain nombre de principes, un certain nombre de principes qu'on pourrait assimiler à ceux du libéralisme politique. Mmh. Donc ce que j'ai appris en écrivant ce livre et en faisant les recherches, c'est que il est difficile d'avoir toujours une vision manichéenne de la vie intellectuelle et de la vie politique. Que quelquefois, malgré les apparences, on a des éléments, et malgré les ruptures, parce que c'est une rupture dans l'existence de Winkop, donc malgré ces ruptures, il peut y avoir des éléments de continuité.
Cette idée d'un Rheinbund, d'une confédération rhénane viable sous la tutelle napoléonienne, c'était aussi partagé par Wieland un temps. C'est-à-dire que l'idée, à partir du moment où Napoléon assure la paix et donne une constitution, parce que c'est ça qui est important, comme le souhaitait Winkop, ben, tout ça, ça pourrait être viable. Sauf que Napoléon avait d'autres idées que simplement accorder la constitution à la Confédération rhénane. Oui, on en était à cette évocation historique, là, maintenant, puisqu'on arrive au début du XIXe siècle. Peut-être on peut revenir, ou plutôt passer à ce... cet intérêt pour l'histoire qui a été présent dans tout le XVIIIe siècle, quoi qu'on en dise, et quoi qu'on ait pensé aussi un temps, intérêt pour l'histoire, d'ailleurs, qui se montre bien par l'effort que les hommes des Lumières ont entrepris pour fixer leur période dans l'histoire, hein, lorsque dans le fameux article de Kant dont je parlais tout à l'heure, de 84, c'était bien aussi pour dire à quel moment d'histoire nous en sommes, comment la Hofclairon, comment les Lumières se situent-elles par rapport à l'évolution historique. Sommes-nous, est-ce que les Lumières ont achevé leur programme ou bien est-ce que nous sommes dans un moment où les Lumières continuent? Donc il y a un rapport à l'histoire, il y a un rapport à une espèce de volonté de se situer, une situation intellectuelle, mais qui se fait par rapport à un horizon historique. Et d'ailleurs, Kant ne se privera pas d'écrire ou de proposer une philosophie de l'histoire. Mais cette philosophie de l'histoire, ou cette histoire, Tristan Cognard l'a étudiée en particulier dans un ouvrage second, dont il va un peu parler, et qui s'appelait « Lumière et histoire », et qui avait été le sujet d'un séminaire qui avait été organisé par la Société internationale d'études du XVIIIe siècle, séminaire pour ce qu'on appelle les jeunes chercheurs, jeunes et brillants chercheurs, bien entendu. Et peut-être va-t-il nous dire, là, nous dire quelques mots de ce problème, de cette problématique entre l'histoire et les Lumières.
Oui, alors c'est un livre que je n'ai pas écrit moi-même, hein, je l'ai coédité, hein, donc je me suis occupé avant tout du travail éditorial avec deux collègues, hein, une collègue québécoise, hein, Peggy Davis, et une collègue néerlandaise, hein, Alicia Montoya. Et donc c'était effectivement, c'est le fruit, hein, d'un séminaire international qui, justement, voulait remettre en question, là aussi, hein, une idée reçue à propos des rapports entre lumière et histoire. Donc, on a beaucoup insisté, hein, en parlant de l'apologie du débat public, que le XVIIIe siècle, hein, marque, hein, une entrée, hein, du monde, hein, et de l'Europe en particulier, dans la modernité politique et intellectuelle. Mais ce que montrent finalement les contributions qu'il y a dans Lumière et Histoire, c'est que cette modernisation fondamentale n'oublie pas le passé. C'est-à-dire que le passé, hein, et l'étude du passé, hein, et les hommes des Lumières, hein, sont finalement de grands historiens, cette étude du passé permet de nourrir, hein, la modernisation sociale, culturelle, politique. Et il y a, hein, dans Lumière et Histoire un chapitre, un ensemble de contributions auquel on a donné le titre de « Réinventer l'Antiquité ». Hein. L'Antiquité est un moment, hein, fondamental pour les Lumières, pour penser, hein, la modernisation, pour inventer quelque chose de nouveau. Les hommes des Lumières regardent en arrière, ils regardent vers l'Antiquité, ils lisent évidemment les auteurs antiques, et ceux qu'ils vont moderniser, hein, n'oublient jamais, ceux qui vont moderniser le monde, hein, n'oublient jamais que des penseurs, hein, ont réfléchi à ces choses-là avant eux, que les penseurs de l'Antiquité, hein, ont poser, hein, les jalons, hein, de la modernité politique après, hein, au XIXe siècle et au XXe siècle.
Oui, peut-être pourrait-on dire aussi que c'est un effet de la sécularisation, c'est-à-dire que l'histoire apparaît aux hommes des Lumières parce que ce n'est plus l'histoire sainte qui est considérée comme la seule histoire possible. Si on considère l'histoire sainte, en réalité, c'est une entropie par rapport à le moment d'épiphanie où est apparue la divinité, Jésus-Christ. Et donc, après tout ça, c'est simplement un souvenir de ce qui s'est passé, où c'est une réorientation par rapport à ce moment épiphanique, mais qui, en quelque sorte, supprime l'histoire. On ne fait que répéter. Et c'est une histoire en déperdition, en réalité, parce qu'il y a eu ce moment étonnant où la divinité paraît dans le monde. Et avec... et donc l'histoire qui continue, c'est une histoire qui continue, mais qui a moins d'intérêt, puisqu'il faut des rites pour essayer de rappeler ce mouvement. Or, dès lors qu'on considère que cette apparition n'est plus l'alpha et l'oméga de toute l'histoire humaine, on se reporte à d'autres histoires, on se reporte à l'Antiquité, c'est-à-dire au même moment que cette apparition théophanique, et puis on essaie de voir comment ces hommes de l'Antiquité ont pu gérer le temps et en même temps les espaces politiques. Et donc, c'est déjà la querelle qui intervient, enfin, la querelle des anciens et des modernes à la fin du siècle de Louis XIV, mais qui est repris par les hommes des Lumières pour justement vérifier qu'il y a des progrès, ou bien se dire qu'il y a des progrès, et que, en réalité, depuis la naissance du Christ, il n'y a pas que la naissance du Christ, il y a aussi toute une autre évolution qui fait que il y a peut-être une perspective ascendante pour l'histoire humaine, c'est ce qui intéresse les Lumières en particulier. Et donc, l'histoire devient un objet de réflexion, un objet de... je dirais qui est immédiate dans le rapport au temps des Lumières, parce que désormais, il faut se concentrer sur l'avenir, et l'avenir ne ressemblera pas, ne sera pas une répétition du passé, ne sera pas une répétition appauvrie du passé. L'avenir pourra être un enrichissement du présent. Et donc, pour cet enrichissement du présent, il faut un retour non plus vers l'histoire sainte, mais vers l'Antiquité, par exemple, l'Antiquité gréco-romaine. Il faut voir le néoclassicisme des années 80 ou 70 dans la peinture, avec rappel des épisodes romains, des épisodes grecs, etc. La popularité aussi du thème de la République chez un auteur comme Wieland, que vous connaissez bien d'autre part.
Oui. L'idée que vous avez évoquée à propos du changement est importante. Et pour les hommes des Lumières, s'intéresser à l'histoire, c'est aussi finalement comprendre comment on peut changer les données politiques. Alors, il y a une section dans ce livre qui s'appelle « Penser les révolutions ». Et alors, de notre point de vue, ça peut sembler relativement facile de penser les révolutions, penser la révolution de 1789, de 1989. Etc. Mais pour les hommes des Lumières, c'est véritablement un cheminement qui va se faire justement grâce à l'étude de l'histoire. Vous l'avez évoqué, je vais y revenir rapidement, le terme de révolution, au départ, et encore très longtemps au XVIIIe siècle, c'est la révolution des planètes. C'est-à-dire que c'est le retour du même, d'accord ? On tourne finalement en rond, et les choses, les événements se reproduisent périodiquement. Donc on retrouve dans l'histoire, à certaines phases de son évolution, on retrouve finalement les mêmes acteurs, peut-être, en tous les cas, les mêmes circonstances politiques. Et justement, l'étude de l'histoire au XVIIIe siècle va briser un peu ce cercle, et l'idée de révolution va devenir... autre chose, c'est-à-dire l'invention de quelque chose de nouveau. Donc à partir de ce mouvement circulaire, on va avoir une dynamique ascendante, une dynamique émancipatrice, et cette dimension émancipatrice relie un peu les deux ouvrages, celui qui s'intéresse plus au rapport des Lumières avec le passé, c'est-à-dire Lumière et Histoire, et l'ouvrage L'apologie du débat public, qui s'intéresse plutôt au rapport entre les Lumières et le futur, et la modernité politique.
Je trouve que c'est un beau mot de fin, ça. On peut s'arrêter là-dessus. Merci, Tristan.